Mondial Sport, Christophe Guérin-Billon.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Mondial Sport, encore un menu particulièrement copieux ce soir avec comme entrée la soupe à la grimace pour le Real Madrid, encore battu dans le Classico hier 1-0, la perspective d'un titre en Liga s'efface tout doucement, celle du sacre du FC Barcelone prend forme, plus beaucoup de suspense non plus en Serie A, le favori, la Juventus Turin, l'a emporté tout à l'heure face à son rival Naples, Matteo Cheffi nous en parlera. On évoquera aussi le match amical féminin France-Uruguay, demain, session de rattrapage pour les Bleus qui ont échoué jeudi contre les Allemandes. En Afrique, la quatrième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, le sacre attendu de l'Érythréen Merwi Kudus sur le Tour du Rwanda, un des événements phares de l'actualité cycliste avec les mondiaux sur piste en Pologne. 5 médailles pour les Français, mais des résultats un peu contrastés. Si la vitesse a le vent en poupe, l'endurance s'essouffle, le manager des Bleus nous livrera ses impressions. La Liga 2018-2019 est donc pliée, ou presque mathématiquement. Rien n'est fait, évidemment, mais bien ambitieuse serait l'équipe désormais capable d'aller contrarier le FC Barcelone, assise sur un fauteuil de plus en plus confortable après sa précieuse victoire hier dans le Classico face au Real Madrid à Santiago Bernabéu, 1-0. Petit but, mais grande conséquence pour les merengues, pour qui la fin de saison en championnat risque d'être particulièrement longue. Madrid, Pierre Chaperon.
C'est une petite chanson qui commence à lasser les supporters du Real Madrid. Un refrain qui voit se répéter les victoires du Barça en championnat à Bernabéu. 4 de suite. Un affront, un camouflet où quand les succès catalans coïncident en plus avec une élimination en Coupe du Roi et un abandon de tout espoir de remporter le championnat. Ce samedi, le Barça a peut-être fait un pas de plus vers le titre en Liga, même si, comme le rappelle le défenseur barcelonais Gérard Piqué, les rêves de gloire sont encore loin.
Oui, je suis content, c'est un très bon résultat. Venir ici à Bernabéu, ne pas encaisser de but sur les deux rencontres. C'est vraiment une fierté au final. Bon, maintenant on va en profiter, on va avoir une semaine sans match pour nous reposer et après on aura un calendrier très difficile. Je crois que la Liga n'est pas terminée. C'est vrai qu'on a fait un coup ici, mais ce n'est pas définitif. Ce n'est pas fini.
Alors oui, il reste beaucoup de matchs encore avant de lever les bras. Oui, mais depuis plusieurs semaines, le Barça affiche une puissance, une force dans ses contre-attaques, une force dans sa gestion des temps sans ballon comme hier, laissant le Real effectuer des tirs qui passeront au-dessus et à côté des cages de Ter Stegen comme un aveu d'impuissance. Une solidité remarquée par le français du Barça, Clément Langlais.
Gagner ces matchs-là, c'est toujours bon pour la confiance. Depuis quelques mois, on est très solide. Je pense qu'on peut faire encore mieux dans le jeu, par moment en tout cas. Il y a des périodes dans le match où on est très très bon et d'autres où on est un petit peu moins bon et ça, c'est un point où on doit s'améliorer encore. Mais en termes d'équipe, on est très solidaire. On a des joueurs avec beaucoup beaucoup d'expérience qui nous permettent de gérer les matchs d'une formidable manière.
Le Real, lui, reste à quai. Au terme de cette semaine, le club n'a plus que la Ligue des Champions pour rêver. En tout cas, pour le championnat, le gardien Thibaut Courtois ne se fait plus trop d'illusions.
Quand tu es 12 points derrière, ben ça va être dur, on sait ça, c'est compliqué. Naturellement, dans le foot, tout est possible, mais c'est dur pour une équipe comme Barça de perdre 12 points. Mais bon, il reste 12 journées ou un truc comme ça, donc on doit essayer de gagner tous les 12 et après on verra où on arrive. Mais bon, on doit être honnêtement presque sûr que pour gagner encore la Liga, ça va être mission impossible presque. On doit rester concentré sur tout, mais bon, naturellement, pour gagner un titre, le plus probable, c'est le Champions League.
Une semaine fatale pour le Real Madrid qui tentera dès mardi en Ligue des Champions de continuer à survivre dans une saison désormais très mal embarquée. Pierre Chaperon, Madrid RFI.
Oui, le Real face à l'Ajax Amsterdam en huitième de finale, retour de la Ligue des Champions, toujours à Bernabéu avec l'avantage du 2-1 obtenu à l'aller. Le petit rappel du classement en Liga, le Barça en tête avec 60 points devant l'Atlético de Madrid qui est allé battre la Real Sociedad 2-0 aujourd'hui, 53 points pour l'Atlético. Le Real, troisième avec 48 points. On enchaîne tout de suite avec la Serie A et son match au sommet de la 26e journée, Juventus Turin. Naples suivi attentivement par Matteo Cheffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir, bonsoir Christophe.
Le monarque absolu recevait son dauphin, aucun danger sur le plan comptable au coup d'envoi pour la Juve vu l'écart au classement, écart qui s'aggrave puisque les Rossoneri viennent de l'emporter 2-1.
Oui, les Bianconeri.
Les Bianconeri, pardon.
Oui, Christophe, je vous dis tout de suite que ça a été un défi super palpitant. À la fin de la première mi-temps, tout semble déjà décidé. L'arbitre, après 25 minutes, réduit Naples en 10 car il est prêt à un rouge envers le gardien napolitain qui semble commettre une faute sur Ronaldo pas trop évidente. À suivre, sur coup franc, Pjanic ouvre le score et 15 minutes plus tard, Emre Can signe le 2-0. Deuxième mi-temps qui commence tout de suite avec un autre coup de scène, nouveau carton rouge cette fois-ci à l'égard de Pjanic. À 10 contre 10, Napoli raccourcit le score grâce à Caleone. Et à partir de là, l'équipe de Carlo Ancelotti commence son assaut. La Juve s'affole. Et à 10 minutes de la fin, un pénalty pour le Napoli. Mais un incroyable poteau nie à Lorenzo Insigne la joie de l'égalisation. Score final, vous l'avez dit, 2-1. Et la Juve qui s'envole à 16 points et qui est toujours plus proche de son 8e Scudetto.
Voilà, derrière les blancs et noirs, bien les blancs et noirs, les Bianconeri. Et Naples, c'est le Milan AC qui a fait la meilleure affaire en s'imposant 1-0 hier sur Sassuolo, alors que l'Inter avait perdu 1-0 vendredi à Cagliari. Et puis Matteo, il y avait le derby romain entre la Lazio et la AS Rome. La Roma nettement battue 3-0 et vraiment pas rassurante avant de retrouver l'Europe cette semaine.
Oui, en effet, ça a été une soirée triomphale pour la Lazio qui a offert à ses supporters les succès le plus désirés de la saison. Une sévère leçon, 3-0 donné aux cousins de la Roma. Et ça faisait 5 ans que la Lazio ne gagnait pas un derby à domicile et 12 ans qu'elle ne s'imposait pas face à la Louve avec 3 buts d'écart. La Lazio grimpe donc à ce moment à la 6e place, à 3 points de la Roma qui la précède et avec un match à récupérer. Les Giallo Rossi, à leur tour, sont attendus donc mercredi soir à Porto, où ils devront défendre le 2-1 obtenu à l'aller. Et si les Giallorossi affronteront ces défis avec le même esprit vu hier soir, il y a vraiment de quoi s'inquiéter.
Merci beaucoup, Matteo Cioffi. On ajoute que ce week-end de Serie A a été marqué par un hommage à Davide Astori, le défenseur de la Fiorentina, décédé il y a tout juste un an d'une crise cardiaque. Tous les matchs ont été interrompus à la 13e minute par des applaudissements. Rapide tour d'horizon des autres résultats en Europe. En première ligue, Liverpool s'est contenté d'un 0-0 à Everton et cède du coup sa place de leader à Manchester City. En Ligue 1, Lille et Lyon consolident leur place sur le podium en remportant leurs deux matchs dans le cadre de la 27e journée. Le LOSC, deuxième, l'a emporté de peu chez lui sur Dijon à 1-0. L'OL, en revanche, a cartonné à domicile face à Toulouse 5-1, avec notamment un but du Burkinabé Bertrand Traoré. En ce moment, Marseille affronte Saint-Etienne et pour l'instant, l'OM mène 2-0. Le football féminin à présent, le mondial 2019 en France approche à grands pas et manifestement il y a encore du travail pour les Bleus qui enchaînent demain avec un deuxième match amical à Tours contre l'Uruguay après avoir été battu par l'Allemagne 1-0 à Laval. C'était la première défaite depuis un an, assez logique compte tenu du peu d'occasions mais aussi du manque d'engagement physique des joueuses de Corinne Diacre. Et finalement c'est plutôt un mal pour un bien cette défaite, estime la sélectionneur tricolore interrogé sur ce qui a fait la différence il y a 3 jours.
Elle s'est faite tout simplement sur le but que l'on n'a pas inscrit en premier, ça c'est sûr. Mais c'est une bonne chose aussi d'avoir vécu, d'être menée au score avant la compétition. C'est des choses qui, je ne l'espère pas, mais qui pourraient se reproduire. Donc maintenant, j'ai envie de voir mon groupe réagir, oui, après une défaite. Le fait d'enchaîner un match tout de suite, ça va nous permettre de rebondir. Voilà, tout simplement. On sait ce qu'on n'a pas bien fait. On sait ce que l'on doit faire contre l'Uruguay. Donc maintenant, à nous de bien aborder ce match. Après, vous savez, je travaille avec un groupe. Effectivement, je vais donner du temps de jeu à d'autres joueuses, mais il n'y aura pas un turnover très très important. Voilà, je voudrais garder un certain équilibre au niveau de l'équipe.
Corinne Diacre avec Eric Chorin, envoyé spécial à Tours. Rendez-vous demain donc pour suivre ce France-Uruguay dans nos éditions à partir de 20h, temps universel.
Mondial Sport sur RFI.
Allez, il est grand temps d'ouvrir la page africaine dans ce Mondial Sport. Bonsoir Antoine Grenier.
Bonsoir Christophe.
Le football d'abord, 4e journée de la Coupe de la Confédération. Alors c'est plutôt un terme d'information routière qu'on va employer, mais on peut vraiment parler d'une journée de chassé-croisé sur les terrains africains.
Oui, les classements ont été bouleversés. Ça a commencé dès le début d'après-midi au Congo, où l'AS Otto-Odoyo a chippé la deuxième place du groupe A à son adversaire du jour, l'Asania Agadir. Un peu vexé d'avoir perdu au Maroc lors de la précédente journée, un match qu'ils auraient bien vu se finir sur un nul. Les joueurs d'Alou Badra Diallo se sont vengés. Victoire 1-0 grâce à un but d'Asri Badiassila à 20 minutes de la fin. Succès précieux pour l'Otto Doyo, désormais devant Agadir pour un petit point. Et ce, avant un déplacement compliqué chez le leader Renaissance de Berkane dimanche prochain. D'où la satisfaction de l'entraîneur des Congolais, Alou Badra Diallo.
Ah ben, je suis content quand même, les jeunes ont livré un très bon match aujourd'hui. Ils se sont donnés à fond sous une grosse chaleur. C'était pas évident, j'avais remercié les deux équipes. On a mis le cœur, on a mis un moment à l'application pour marquer les buts. Et on a tourné l'équipe en deuxième mi-temps avec les changements qui ont apporté de la vitesse. Parce qu'on savait que le point faible de cette équipe était un peu la lourdeur. Et nous avons axé tous les deux jours d'entraînement qu'on a eu sur la vitesse. Et la vitesse de nos attaquants et la finition. On était la seule équipe aussi à ne pas gagner. On avait peur quand même à un moment pour ne pas avoir la victoire. Nous l'avons eu. Et rien n'est fini. J'avais dit qu'on n'avait rien à perdre dans cette compétition. Nous allons jouer nos chances. Il nous reste 6 points. On va les chercher. Et on va préparer sérieusement ce match de Berkamp. Essayer quand même de ramener 3 points.
En face, Miguel Angel Gamondi, l'entraîneur d'Agadir, comprenait un peu ce que son homologue avait pu ressentir à l'aller. Un peu de frustration et la certitude que son équipe aurait pu obtenir un meilleur résultat.
En première mi-temps même, on a eu des occasions qu'on n'a pas su profiter. Et deuxième période, c'est logique, l'équipe qui joue à domicile, il a essayé de faire la pression, il n'avait pas un autre résultat que gagner. Et malheureusement, nous, on a commis un erreur naïf de marquage en un bal arrêté. Et dans ce type de compétition, tu payes cash ces erreurs. Vraiment, je suis fâché par rapport à l'erreur qu'on a commis. Je crois que Hassania, il a mérité au moins avoir un point, mais on a déjà un problème, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un petit peu de temps que c'est difficile qu'on marque des buts. Et parfois c'est la malchance, parfois la maladresse. Je félicite l'équipe de Ottawa parce qu'ils ont joué, ils ont se battu à fond, ils ont marqué les buts et ça y est. Mais ça reste encore ouvert, on verra le résultat de l'autre match là-bas.
Miguel Angel Gamondi, l'entraîneur de Lassagne Agadir, au micro de Jean-Ruffin Louemba. Dans l'autre rencontre de ce groupe A, le tenant du titre, le Raja Casablanca et Renaissance Berkane se séparent sur un nul 0-0 au classement. Berkane mène avec 8 points, 3 longueurs devant l'Auto Odoyo, 4 devant Agadir. Le Raja est dernier avec 3 unités.
Dans le groupe B, l'Étoile du Sahel enchaîne.
Deuxième succès de rang pour la formation de Sousse, un succès important, 2-0 sur la pelouse des Nigérians des Nougou Rangers. Première victoire à l'extérieur aussi pour les joueurs de Roger Lemaire, ce qui leur permet chassé croisé, toujours de devancer le club sportif sfaxien en tête de la poule. Les Tunisiens qui ont dû se contenter du match nul 0-0 sur le terrain des Burkinabés de Salitas, avec 2 points d'avance sur Enougou. Sfax ne se plaint pas, mais côté Burkinabé, ce 4e match sans marquer de but suscite des regrets, ceux de l'attaquant Cédric Badolo. Pour lui, la chance a encore fait défaut.
La défense était dans son rôle, c'était de ne pas encaisser, eux ne pas encaisser, c'était à nous les attaquants de pouvoir concrétisé, mais malheureusement on n'a pas eu la chance et on finit par le score de 0 but partout. L'Étoile vient de gagner, on a 3 points, mais je pense qu'il nous reste encore 2 matchs. Rien n'est impossible, nous sommes toujours dans le foot et on va essayer de travailler la finition pour pouvoir vraiment gagner les 2 matchs qui nous restent. Vous avez vu ce soir que nous avons tiré au but, nous avons eu pas mal de tirs et d'autres étaient cadrés, d'autres n'étaient pas cadrés. C'est ce que j'avais dit, c'est la chance qui nous a manqué. Mais bon, on va continuer dans notre lancée et continuer à travailler. Je pense que ça va venir.
Côté tunisien, Alaeddine Marzouki, l'ailier droit de Sfax, se contente de ce résultat. Mais il faudra faire mieux la semaine prochaine.
Un peu, oui. Mais bon, on a joué contre une bonne équipe de Salitas. Mais elle a fait un match nul. Pour le moment, on a quand même nos chances dans nos mains. Puisqu'on n'a pas un bon jeu, on n'a pas marqué. Donc, on essaie le prochain match d'être meilleur. Et puis on va essayer de marquer, sinon si on ne marque pas, on ne se qualifie pas. Le groupe est encore jouable, donc on fait le max pour se qualifier.
Alaeddine Marzouki, l'ailier droit du CS Sfaxien, au micro de Gabriel Barrois. Le classement de cette poule B, l'Étoile du Sahel en tête avec 7 points, Sfax se suit avec 6 unités. Derrière, Enougou pointe au 3e rang avec 4 points et Salitas ferme la marche à une longueur. La prochaine journée sera décisive.
Dans le groupe C, le chassé croisé fameux a pris des airs de chamboultou.
Avec un leader, le Nkana FC, l'équipe zambienne qui se retrouve virtuelle éliminé à la 3e place après sa défaite, sa déroute même 3-0 sur le terrain des Ghanéens de l'Asante Kotoko. 3 buts inscrits dans la première demi-heure par un Asante en proie aux critiques ces derniers jours, critiques de ses supporters qui lui reprochaient sa fragilité défensive. Mais emmené par un Yacouba Sonnier des grands soirs, les Ghanéens ont brillé offensivement avant de baisser un peu de pied en deuxième période pour se préserver, assurait l'attaquant burkinabé.
Il y a plus de 3-5 personnes qui ont carton jaune. Donc on s'est méfié un peu pour ne pas prendre un autre carton de jeu et être suspendu le prochain match qui est plus important aussi.
Comment vous avez trouvé l'équipe zambienne?
J'étais agressif ces jeux, mais ils sont venus ici. Bon, c'est qu'ils nous ont posé difficile là-bas, donc ils n'ont pas pu faire ça parce qu'on a pu étudier un peu, on a pu les bloquer et ça s'est bien passé.
Yacouba Sonny est l'attaquant de la Santé Kotoko au micro de TTAJ. Dans le même temps, les Soudanais de l'Al Hilal Omdurman, troisième au début de la journée, se retrouvent propulsés en tête de la poule après leur succès 3-1 sur d'autres Zambiens, ceux de Zesco United.
Enfin, le groupe D, c'est l'heure du redressement pour le Zamalek du Caire.
Les Égyptiens en difficulté jusqu'ici avec 2 nuls et 1 défaite pour bilan sur le terrain du Petro de Luanda. Le Zamalek est allé chercher un succès court mais précieux, 1-0 sur un but d'Haddad à la 28e minute. Au classement, le Zamalek est troisième à 2 points du leader, les Algériens d'Hussein Dey, vainqueur des deuxièmes, les Kenyans de Gormaya 1-0. Le Petro de Luanda ferme la marche.
Et on rappelle que tous les résultats de cette Coupe de la Confédération sont à retrouver sur africfoot.rfi.fr. Le basket, à présent, la troisième fenêtre de l'Africa Basket League, la Coupe d'Afrique des clubs champions, s'est achevée à Salé au Maroc et loin du décidément fameux chassé-croisé de la Coupe de la Confédération. Là, la logique a été pleinement respectée.
Les favoris ont été au rendez-vous indéniablement. L'AS Salé d'abord, championne d'Afrique en titre devant son public. L'équipe marocaine n'aura pas tremblé durant ce week-end. 3 matchs, 3 victoires. La dernière, il y a 1h30 sur les Guinéens du Slack, 107-93. Un match interrompu pour cause de fumigène pendant 20 minutes. Des fumigènes dans une salle de basket. Voilà, c'était pour l'anecdote. Salé qui défendra donc son titre avec cette qualification pour l'Elite 8, la phase finale de cette Coupe d'Afrique. Les Marocains accompagnés par les Tunisiens de la jeunesse kérouanaise, vainqueur des Nigérians de Rivers Hoopers 91-70.
Dernier de leur groupe, les Guinéens du Slack n'auront quand même pas tout perdu.
Mais en tout cas, ils auront appris. C'était leur objectif pour cette première participation à l'Africa Basket League. Se frotter aux champions d'Afrique et à des formations habituées aux compétitions continentales. Tester également des joueurs recrutés aux États-Unis, comme l'ailier Dane Miller ou le meneur Shaquille Farland. C'était ça le but de cette participation pour le Slack. Plus largement, une bonne occasion de faire progresser le basket guinéen. Oumar Camara Sampil, le secrétaire général de la fédération guinéenne, accompagnait le Slack à Salé.
Il faut savoir que la Guinée déjà vient de très loin. Depuis 32 ans, on n'avait pas participé à une compétition internationale senior. C'est en 2017 qu'on a eu le réveil, en battant le Mali et le Sénégal lors des éliminatoires de la zone 2 pour la Coupe d'Afrique. Ensuite, la Guinée s'est battue pour participer à toutes les compétitions continentales, que ça soit senior, U18 et éliminatoire Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a un modèle qui est basé vraiment sur la passion des joueurs d'abord et la passion d'un président, Monsieur Sakoba Keita, de la fédération. Et surtout, un nouveau modèle économique qui est mis en place par des jeunes cadres. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment de former des jeunes. La Guinée a du talent. On le voit aujourd'hui avec Amidou Diallo qui gagne le concours de dunk au All-Star Game, qui est d'origine guinéenne et qui est sur nos tablettes. Donc vraiment, aujourd'hui, on pense que sur les années à venir, on pourrait être un pays qui compte dans le basketball africain.
La hiérarchie du côté de l'Afrique, elle est déjà bien établie. L'idée de la Guinée, est-ce que c'est de s'inspirer un petit peu de ce qui se fait chez le voisin sénégalais notamment ?
Aujourd'hui, l'objectif de la Guinée, c'est de faire partie des 16 meilleures nations de basketball en Afrique, et de compter parmi ces nations-là. Et on y arrive petit à petit. Avant, on n'était même pas du tout sur les tablettes, on était devancé par le Cap-Vert. Aujourd'hui, rien que dans notre zone, on est le troisième pays, derrière le Mali et le Sénégal. Et en Afrique, on montre bien qu'en participant à cette Afro-League, on reste parmi ces équipes de haut tableau, je dirais, du basketball africain. Donc oui, aujourd'hui, on a le Sénégal comme exemple, qui aujourd'hui arrive à former des jeunes, à les envoyer aux États-Unis. Donc aujourd'hui, nous, on souhaite aussi à développer notre basketball, développer notre modèle économique à travers justement la construction de salles. Les infrastructures aussi qui sont assez vétustes. On a un palais des sports qui date de 1966. Et c'est vrai que c'est dernièrement qu'il y a eu une remobilisation de toute l'administration du sport guinéen pour rénover ce palais des sports et lui permettre aujourd'hui d'abriter des compétitions de jeunes, parce qu'on a abrité quand même des éliminatoires de jeunes. Et on pense surtout que le basketball est un outil de développement pour cette jeunesse guinéenne.
Et la Guinée qui est candidate pour organiser la Coupe d'Afrique de basket en 2024. En attendant, rappelons que la dernière fenêtre de phase de groupe de l'Africa Basket League se disputera le week-end prochain à Cotonou, au Bénin.
Les notes de l'hymne érythréen qui résonnent dans Kigali, la capitale rwandaise, où jusqu'au bout, Merawi Kudus, Antoine, aura conservé son maillot jaune dans le Tour du Rwanda.
Et il lui a fallu être solide pour défendre sa tunique conquise après sa victoire lors de la deuxième étape. La boucle est maintenant bouclée depuis cet après-midi et une ultime étape dans les rues de la capitale du pays, Kigali, où l'on retrouve notre envoyé spécial Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde.
Alors, carton plein pour l'équipe Astana. Victoire aujourd'hui en solitaire pour le Colombien Rodrigo Contreras Pinzon. Et puis victoire sur le général avec Merawi Kudus.
Oui, on lui promettait l'enfer dans le mur de Kigali, d'autant qu'il avait perdu du temps hier avec une crevaison et une chute. Il avait trois rivaux assez basses que certains voyaient déjà les fantômes de 2012 ressurgir à l'époque pour sa première participation. Merawi Kudus avait craqué l'avant-dernier jour. Il avait perdu son maillot jaune, mais depuis, l'Érythréen a bien grandi. Il a 25 ans, il court dans la cour des grands et ça change tout.
Hier c'était compliqué pour moi parce que j'ai fait des erreurs et mon avance s'était réduite. Donc aujourd'hui j'ai fait attention, je n'ai pas pris de risque comme c'était prévu au briefing. Je suis aussi heureux de la victoire de mon coéquipier, c'est un grand moment. Parce qu'ici, en 2012, j'ai tout perdu l'avant-dernier jour parce que mon équipe n'était pas très forte et je n'avais pas l'expérience nécessaire pour défendre un maillot. Cette fois, je suis venu avec l'une des meilleures formations du monde, Astana. Mes coéquipiers sont très bons. On peut imaginer plusieurs stratégies sur différentes courses. Et quand autour de moi, les gars sont aussi forts, ça me surmotive.
Merawi Kudus qui vient sans doute de passer la plus belle semaine d'une carrière qu'à l'aube on imaginait glorieuse. Finalement, son parcours depuis son arrivée chez les professionnels s'est révélé assez très voire chaotique. Il était presque au chômage l'automne dernier quand l'équipe Astana est venue le chercher, la formation kazakh qui aujourd'hui ne doit pas regretter son choix avec donc deux victoires et le maillot jaune pour son Érythréen.
L'Érythrée, grande nation de ce Tour du Rwanda 2019, avec aussi pas de jaloux, une victoire pour chacun des petits frères de l'équipe nationale, les prodiges Jacob Debessaï et Binyam Girmay.
Ils ont le même âge, 19 ans, mais deux styles différents. Le premier est plutôt puncher-grimpeur, le second sprinter ou alors coureur de classique. En tout cas, ils ont épaté tout le monde, les professionnels bien sûr, mais aussi un homme particulièrement pointu quand il s'agit de jeunes espoirs, le sélectionneur multititré de l'équipe de France des moins de 23 ans, Pierre-Yves Châtelon.
Sur ce que j'ai vu, ils n'ont pas beaucoup de lacunes. Ils ont un coureur qui va très très vite au sprint, ils ont des bons grimpeurs, des punchers. Ça veut dire toute la richesse du cyclisme érythréen, quoi. Et c'est bien, je pense que c'est une nation qui va tirer le cyclisme africain vers le haut. Mais ouais, ils peuvent jouer sur tous les terrains. Et voilà, peut-être que ce serait bien qu'à l'avenir, ils aient les moyens de venir faire plus de manches de la Coupe des Nations en Europe. Je pense notamment au classique belge, à Gent-Wevelgem ou le Tour des Flandres. Ce serait intéressant de les voir sur ces profils d'épreuves et pas uniquement sur un Tour de l'avenir.
Vous êtes jaloux de leur réservoir ?
Non, au contraire, je suis admiratif. Non, on peut pas être jaloux. C'est une très bonne nouvelle pour le cyclisme international et que ce soit pas toujours des coureurs du Nouveau Monde, du continent américain ou de l'Océanie, de l'Australie qui viennent titiller les Européens. C'est très très bien que ce soit des Africains. Donc non, on n'est pas jaloux, bien au contraire. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour le cyclisme mondial à mon sens.
Voilà, et à l'inverse des Érythréens, déception pour les Rwandais, zéro pointé au niveau des étapes, un seul coureur dans le top 10 du général Joseph Areruya, il est 9e, la roue tourne l'an dernier, et puis les 5 dernières années d'ailleurs, les Rwandais avaient remporté leur tour national.
Voilà, la route est parfois cruelle, ceci étant, il y a une bonne nouvelle pour le Rwanda, c'est que son tour national, cette édition 2019, a réussi son examen de passage dans la catégorie supérieure des courses UCI.
On l'avait dit, passer des courses dites 2.2 au 2.1, c'est monter en gamme, passer un cap. Et les grandes équipes professionnelles, il faut le dire, ont bien joué le jeu. Globalement, tout le monde était content d'être ici. L'organisation est à la hauteur, professionnelle, sérieuse. Du coup, peut-on viser aussi bien, voire mieux, en termes de plateau l'année prochaine ? La question est posée au président de la Fédération rwandaise de cyclisme, Aimable Bayingana.
Je pense que ceux qui sont venus, ils vont porter le message à ceux qui ne sont pas venus. Donc, on espère beaucoup de grandes équipes au prochain Tour du Rwanda.
Ceux qui sont venus, vous pensez à Astana Direct Energy, ça veut dire que déjà de leur part, vous avez des bons échos ?
Tout à fait, nous avons de très très bons échos. Ils ont été très contents, ils sont prêts à revenir l'année prochaine.
Vous rêvez de qui sur ce Tour, comme équipe ?
Bon, je ne peux pas le dire aujourd'hui, je le dirai plus tard.
Chris Froome est né en Afrique ?
Pourquoi pas ? Chris Froome est né au Kenya, c'est notre voisin. Il connaît le Rwanda, il connaît le cyclisme rwandais. On voudrait bien qu'il soit là aussi.
Vous allez essayer ?
Bien sûr.
Il n'en dira pas plus, reste que si des grands noms du peloton viennent ici au Rwanda, il faudra forcément payer plus. Se posera aussi la question des écarts de niveau quand on voit par exemple que les Camerounais ont fini avec le seul valeureux Clovis Kamzong Abesolo en course. Il ne faudrait pas non plus oublier les équipes nationales africaines.
Et c'est là-dessus qu'on referme ce chapitre du Tour du Rwanda 2019. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger en ligne avec nous depuis Kigali. Bon retour à vous via Bruxelles. On a hâte de voir les photos que vous avez prises au Rwanda. Certaines d'ailleurs sont visibles sur le site RFI.fr.
Et merci à vous Antoine pour l'ensemble de l'actualité africaine dans ce Mondial Sport. On va rester sur la selle pour terminer l'émission. Direction Pruszków près de Varsovie, où viennent de s'achever les championnats du monde de cyclisme sur piste avec le triomphe des Pays-Bas, seigneur de l'anneau pour la deuxième année consécutive. 11 médailles, dont 6 en or devant l'Australie avec 10 récompenses. La France est cinquième de ce tableau d'honneur avec 5 médailles. Quant à la Fargue en or sur le kilomètre et en argent en vitesse par équipe, Benjamin Thomas, vice-champion du monde de l'Omnium, et Mathilde Gros, troisième de la vitesse individuelle. Ce sont quelques-unes des satisfactions d'un contre-tricolore qui n'occulte pas pour autant quelques inquiétudes. Bruno Lecky, le manager de l'équipe de France, dresse le bilan de ces mondiaux avec notre correspondant Thomas Giraudot.
Globalement, c'est quand même une belle semaine et des beaux résultats avec le titre pour Quentin Lafargue. C'est en plus pour Quentin une consécration. Hein. C'est un coureur qui travaille beaucoup, qui est persévérant, qui avance tout le temps. Ici à Pruszków, c'est une piste qu'il apprécie parce que c'est une piste où il a eu des résultats chez les jeunes, un peu plus tard aussi. Quentin, il a été aussi très performant sur la vitesse par équipe et cette vitesse par équipe qui toujours et tout le temps ramène une médaille. Là, c'est la médaille d'argent. Bon, les Hollandais étaient intouchables, hein, mais derrière, cette vitesse par équipe, elle bat son record de France.
Autre satisfaction, Mathilde Gros sur la vitesse individuelle qui remporte sa première médaille mondiale à seulement 19 ans.
Oui, en élite à seulement 19 ans, donc belle satisfaction. Elle a prouvé que dans le tournoi, elle avait sa place, qu'elle progressait au niveau tactique hein, sur le tournoi de vitesse. Elle n'a pas fait d'erreur, elle s'aguerrit petit à petit, elle prend de l'expérience.
En revanche, sur le Kérin, elle termine dernière de sa finale, comme Sébastien Vigier.
Ils sont tous les deux jeunes, hein, puisque Sébastien va avoir 22 ans, donc c'est très jeune aussi. Le Kérin, c'est aussi une course où on a besoin d'expérience, énormément d'expérience, pour lire les courses, pour s'adapter, pour réagir. Après, il va falloir encore s'aguerrir sur les résultats, encore aller plus loin, encore aller de l'avant pour pouvoir concrétiser ces finales.
4 médailles sur les épreuves de sprint, une seule en argent sur les épreuves d'endurance. Il y a un échec que vous constatez au niveau des épreuves d'endurance ?
La semaine là a été très compliquée au niveau de l'endurance parce que déjà les poursuites par équipe n'ont pas performé. Hein. Ça se passait plutôt bien dans la préparation, ça s'est plutôt bien passé à l'arrivée ici sur les 3 jours d'entraînement officiel. Et puis il y a une journée chez les garçons catastrophe aussi. On se retrouve 16e sur le classement. Il y a vraiment un gros travail de fond à faire sur l'endurance et sur la poursuite, que ce soit hommes et femmes.
Cela hypothèque les chances, sérieusement, de qualification olympique.
Effectivement, sur l'épreuve olympique, même de la poursuite, ça hypothèque grandement les chances. Il reste des occasions de marquer, hein. Encore le championnat d'Europe, le championnat du monde l'année prochaine. Pour rester dans la course, hein, il ne faut pas se faire distancer. Là, on a été distancé par beaucoup d'équipes. Donc, il y a un gap de points à rattraper. C'est pas forcément perdu pour les autres épreuves, hein, que ce soit la Madison et l'Omnium. Hein. La Madison, parce qu'on reste en course. Aujourd'hui, Benjamin Thomas et Brian Coquart ont fait 6e. Alors, c'est vrai qu'on plaçait beaucoup d'espoir, surtout après la médaille d'argent de Benjamin en Omnium. Bon, il y a eu un gros, gros niveau. Ça roule à 65 km/h. Mais là, on reste en course pour se qualifier sur ces épreuves-là.
Bruno Lecky, le manager de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Voilà, Mondial Sport se referme. Merci à Donatien Cahu et Laurent Philippot pour la réalisation. Pour écouter l'émission en podcast RFI.fr ou la page Facebook Mondial Sport. Vos rendez-vous de la semaine, Radio Foot International comme d'habitude. Et puis, mercredi soir, intégral, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. PSG Manchester United avec Olivier Pron et Frédéric Suto. Dans un instant, 24 heures en France, Adrien Delgrange. Bonne soirée.